VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. À RCA, le second tour de la présidentielle prévu dimanche, officiellement reporté à une date ultérieure qui sera annoncée prochainement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à l'AFP Julius Koufen Gwadebaba, porte-parole et rapporteur général de l'autorité nationale des élections, l'ANE. La date du 14 février a été proposée pour ce second tour lors d'une réunion à la primature à Bangui, à laquelle ont participé des représentants du gouvernement centrafricain, de l'ANE et de la communauté internationale, mais cette date n'a pas encore été confirmée officiellement. Les anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra s'affronteront au second tour pour la présidence après être arrivés en tête du premier tour le 30 décembre 2015. Congo-Kinshasa, dans un rapport rendu public aujourd'hui, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC, BCNUDH, fait état d'une augmentation dramatique des violations des droits humains dans le pays à 10 mois de la présidentielle. Le nombre des violations est en hausse de 64% par rapport à 2014 et on en a enregistré 3847, principalement dans la province orientale ainsi que dans les provinces du Nord et du Sud, Kivu, a déclaré en substance José María Aranaz, directeur du bureau conjoint, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Selon M. Aranaz, qui présentait le rapport annuel de son organisation, les agents de l'État sont responsables de 49% des cas de violation et ont procédé à un total de 294 exécutions extrajudiciaires. Le climat politique est très tendu en RDC, où l'opposition accuse le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et dont le mandat expire en septembre, de chercher à se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de l'année, alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Au Congo-Brazzaville voisin, l'opposition fait contre mauvaise fortune bon cœur après la désignation du président Denis Sassou Nguesso par le parti au pouvoir pour le représenter au scrutin du 20 mars prochain. Au micro de Nani Talani, Guillaume Kinfoussia, un leader de l'opposition à Brazzaville, affirme que l'opposition congolaise évitera surtout la politique de la chaise vide.
C'est une résultat qui était connue d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. Monsieur Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste deux mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition ?
L'opposition, on va y aller à condition que les conditions permissibles soient respectées.
Guillaume Kinfoussia, un leader de l'opposition au Congo-Brazzaville. Au Tchad, grogne des étudiants de l'université de N'Djamena, campus de Koutoukra, à une dizaine de kilomètres de la capitale. La police est intervenue pour disperser leur mouvement d'humeur mardi. Les étudiants revendiquent de meilleures conditions d'études sur ce campus, pourtant inauguré en 2012. Au micro de Timothée Donagma et les explications de Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena.
Les gens de Toukoua revendiquent la réouverture du restaurant qui est fermé faute de financement et de l'électricité sur le site de Toukoua et puis la bibliothèque et le centre de santé. Donc voilà les revendications des gens de Toukoua. Ça fait là 3 semaines, le gouvernement n'a pas répondu. Ils sont obligés de manifester, de barricader. Le site de Toukoua est loin de la ville et il n'y a même pas un centre de santé. Même l'année dernière, nous avons perdu 2 étudiants et nous ne voulons pas enregistrer encore des victimes. C'est pourquoi les étudiants revendiquent une ambulance sur le site de Toukoua. L'année académique 2015-2016 vient d'être lancée, le 15. Mais jusqu'à là, tout est bloqué à l'autre, surtout sur le campus de Toukoua. Parce que les étudiants exigent à ce que le minimum de revendications soit satisfait avant que le cours puisse démarrer. Donc, la situation reste toujours bloquée à tout cas.
Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, trois kamikazes se sont fait exploser aujourd'hui dans la ville de Chibok, dans le nord-est du pays, tuant au moins 10 personnes et en blessant plus de 30 autres, selon un responsable local. C'est dans cette localité que le groupe islamiste Boko Haram avait enlevé plus de 276 lycéennes en 2014. 219 d'entre elles sont encore en captivité, près de deux ans après leur rapt. L'affaire Béatrice Stokely maintenant, l'agence privée mauritanienne Al-Akbar dit avoir reçu une vidéo de l'émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui affirme avoir enlevé la Suissesse Béatrice Stokely à Tombouctou dans le nord du Mali dans la nuit du 7 au 8 janvier. D'après l'agence, en contrepartie de la libération de Mme Stokely, le groupe djihadiste exige la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et de l'un de ses dirigeants Abou Tourab, détenu à la Cour pénale internationale de l'AE. Réaction de la Suisse aujourd'hui, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme avoir connaissance de la vidéo des ravisseurs. Il a ajouté que la Suisse demande la libération sans condition de la personne enlevée en refusant de préciser s'il y a eu une demande de rançon. Au Niger, moins d'un mois maintenant avant le premier tour de la présidentielle du 21 février, la coordination exécutive nationale de l'Observatoire du processus électoral dénonce ce qu'elle appelle la propagande du pouvoir avant même l'ouverture de la campagne électorale en faveur du président Mamadou Issoufou qui souhaite remporter un second mandat à la tête du pays. Au micro de Nicolas Pinault, les explications d'Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence.
On n'a jamais aussi vécu de fortes tensions à la veille d'élections dans notre pays que ces derniers temps. C'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Le cours des événements nous inquiète dans le sens que nous disons que si nous ne sonnons pas l'alerte, nous risquerons d'aller dans l'abîme et notre pays risquerait bien fort de se retrouver avec une crise post-électorale.
Qu'est-ce qui bloque concrètement?
Ce qui aujourd'hui bloque, c'est carrément la violation des textes de la République en matière électorale. Aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir, notamment, s'implique énormément dans la campagne électorale en violation de ces textes. Nous constatons l'implication de couches qui ne sont pas destinées à faire la politique, notamment la chefferie traditionnelle, les chefs religieux, aussi sont en train d'être impliqués dans ce processus électoral en violation des textes en vigueur. Voilà un peu ce qui nous a amené à dire aux autorités de pouvoir arrêter cette tendance à ne pas respecter les textes de la République. Si vous suivez la télévision nationale dans notre pays, vous allez comprendre que ça ne joue que pour seulement un seul clan, notamment le clan au pouvoir.
Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB au Niger. Ouverture demain à La Haye du procès du président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce sera la première fois qu'un ancien chef d'État comparaît devant la CPI. Éric Manirakiza.
Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blégoudé, 44 ans, seront sur le banc des accusés. Les deux hommes vont plaider coupables ou non coupables de quatre crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. À l'ouverture, la procureure Fatou Bensouda prendra la parole, ainsi que les représentants des victimes, puis les avocats à la défense. L'accusation d'y disposer de 138 témoins qui ne seront pas tous appelés à la barre est de 5300 éléments de preuve. Ce procès devrait durer 3 à 4 ans. La crise post-électorale de 2010 avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, arrêté en 2011, est le premier ancien chef d'État livré à la CPI. Son épouse Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun membre du camp d'Alassane Ouattara n'a été inquiété par la CPI. Les partisans de M. Gbagbo sont attendus devant la CPI pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complot ourdi par la France.
L'actualité dans le reste du monde, la Corée du Nord représente une menace ouverte, une menace déclarée pour le monde. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Pékin le secrétaire d'État américain John Kerry, alors que Pyongyang a effectué début janvier son quatrième essai nucléaire. Et pour terminer, les belligérants syriens sont attendus au vendredi à Genève pour de nouveau pourparlers de paix. Le plus urgent de l'heure, selon les organisateurs, c'est d'acheminer les secours aux millions d'habitants des villes assiégées en Syrie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.